Allez hop, la partie numéro 2. Tiens, je sais plus où j'en étais. Quelques-unes encore. Je sais plus où c'est. Ah oui, le prochain steamer, nous sommes encore dans les temps. C'est bon, t'es prêt? Les autres voyageurs avaient déjà fait main basse sur tous les moyens de transport disponibles dans ce coin perdu. Charrettes tirées par des bœufs et toutes sortes de palanquins. Passepartout, qui s'est démené, a fini par dénicher un véhicule particulier. Monsieur, a-t-il dit à Phileas Fogg, je crois que j'ai trouvé un Indien déposé et disposé à nous vendre un éléphant.
What?
L'éléphant en question pouvait fournir pendant longtemps une marche rapide, exactement ce que souhaitait Monsieur Fogg. Passepartout, Sir Cromarty et Phileas Fogg se sont perchés plus ou moins commodément sur le pachyderme.
Super, trop cool. J'adore ça.
Tu es en train d'exagérer un petit peu. N'importe quoi. Allez, calme. Comme le lui avait demandé Monsieur Fogg, le cornac a lancé la bête à vive allure sur des chemins de montagne. Suspendus dans leur nacelle sur chacun des flancs de l'animal, les deux lords anglais ne se parlaient guère, tandis que Passepartout, juché sur le dos de l'éléphant, s'accrochait comme il pouvait aux épaules du guide. 7 heures se sont écoulées ainsi, mettant à rude épreuve les articulations des passagers. C'est en entrant sous le couvert d'une épaisse forêt que s'est bientôt fait entendre un étrange concert avec chants sacrés et coups de cymbales inquiétants. Ayant dissimulé sa monture sous un épais feuillage, le guide a expliqué à voix basse en anglais. Une procession de Brahmes se dirige vers notre côté. Si possible, évitons d'être vus. De fait, un groupe de prêtres en robe chamarrée avançait lentement sous les arbres. Derrière eux, sur un champ au large roux tiré par deux bœufs, se tenait une statue hideuse à quatre bras. Les yeux hagards, les cheveux emmêlés et la langue pendante. C'est la déesse Kali, a murmuré Cromarty, celle de l'amour et de la mort.
Pourquoi elle a quatre doigts?
Quatre
Oh,
bras.
quatre bras.
Je sais pas, parce que c'est la déesse de l'amour, tu veux faire beaucoup de câlins,
Je
Au pied du char, des brahmanes entraînaient une jeune femme à la tête, aux bras et aux pieds surchargés de bijoux qui tenaient à peine debout. Alors que derrière elle, des porteurs soutenaient un cadavre dans un palanquin. Un suttit, a expliqué Cromarty. Un sacrifice humain. Cette jeune femme que vous voyez sera brûlée demain à la première heure. Et ce cadavre, c'est celui de son mari. Et puisqu'il est mort, elle doit mourir aussi. Oh!
Je me rappelle, c'est la date qui
La malheureuse! Ces coutumes barbares subsistent encore en Inde de nos jours. Le guide a repris la parole. Oui, regardez cette femme. On lui a fait fumer toutes sortes de substances à base d'opium pour qu'elle cesse toute résistance. Il est impossible de laisser faire cela. Nous allons sauver cette femme, a annoncé Phileas Fogg.
Il est gentil.
Vous êtes un homme de cœur, a admiré le brigadier Cromarty. Oui, cela m'arrive quand j'ai le temps. Et là, il se trouve que j'ai 12 heures d'avance sur mon programme. Le guide leur en a appris davantage. Cette jeune femme s'appelait Aouda. C'était la fille d'un commerçant de Bombay, auprès de qui elle avait reçu une éducation européenne. Mariée de force à un vieux Raja déjà malade, elle s'était retrouvée piégée. Mais à vouloir la sauver, les trois Européens risquaient le pire. Où doit avoir lieu la cérémonie de crémation? A demandé Phileas Fogg sans tenir compte de cet avertissement. Dans la pagode de Pillaji. Suivez-moi. La nuit était presque tombée lorsque la petite équipe est arrivée en vue de la pagode. Dans la clairière devant le monument, un bûcher avait été dressé. Au sommet de ce bûcher reposait le corps embaumé du défunt Raja, qui était brûlé en même temps, qui serait brûlé en même temps que sa veuve. L'entrée du temple était barrée par une demi-douzaine de gardes, la main sur le sabre. Impossible de faire quoi que ce soit. Nous n'avons plus qu'à partir, a grommelé Cromarty. Certes pas, a assuré Phileas Fogg, tandis que Passepartout s'éclipsait. Au milieu de la nuit, Aouda a enfin été sortie de sa prison, entourée de fakirs au regard fou et emmenée vers le bûcher. Là, elle a été hissée jusqu'à son sommet et allongée à côté de son défunt mari. Puis, une torche a été accrochée à la base de l'édifice et le bois s'est aussitôt enflammé. Alors, un cri de terreur s'est élevé de la foule. Le vieux Raja n'était donc pas mort puisqu'on le voyait se redresser au milieu de la fumée, soulever la jeune femme dans ses bras et redescendre du bûcher comme un fantôme. Les fakirs, les gardes, les prêtres, pris de terreur, d'une terreur sans nom, se sont jetés face contre terre. Lorsque le spectre du vieux Raja, tout fumant, son épouse Aouda dans les bras, est arrivé à proximité de ces messieurs Fogg et Cromarty, il leur a glissé « Filons !» C'est Passepartout lui-même qui s'était glissé vers le bûcher, profitant de l'obscurité épaisse pour y prendre la place du cadavre.
Il est trop mal.
Ayant arraché la jeune captive à la mort, il avait pu passer au milieu des gardes terrorisés. Mais cette stupeur n'allait pas durer. Il y avait urgence à disparaître au plus vite, avant que la supercherie ne soit découverte. L'éléphant les a emportés de trop rapide, tandis que sifflaient autour d'eux quelques balles et quelques flèches. Cette jeune femme ne sera définitivement à l'abri que lorsqu'elle aura quitté l'Inde, a prévenu Cromarty. En fin de matinée, l'éléphant et les passagers sont arrivés à Allahabad. Là, un nouveau train les attendait, sur des rails fraîchement construits. Dès le lendemain, Phileas Fogg et les siens seraient au port de Calcutta, prêts à embarquer pour Hong Kong. Jusqu'alors, le pari d'un tour du monde en 80 jours tenait toujours. Aouda a repris ses esprits dans la soirée, confortablement installée dans son compartiment de première classe. Parlant l'anglais à la perfection, la charmante jeune femme a exprimé toute sa gratitude envers ses sauveurs. Jusqu'à Benares et Calcutta, les kilomètres ont filé, au rythme d'une locomotive lancée à vive allure. Aouda avait accepté l'idée d'embarquer pour Hong Kong et elle avait de la famille. Le train a atteint Calcutta à 7h du matin. Selon les horaires de M. Fogg, le paquebot en partance pour Hong Kong n'appareillait qu'à midi. Ils avaient donc 5 heures devant eux. Le détective Fix, qui n'avait toujours pas reçu son mandat, les attendait discrètement sur le quai en espérant que le bateau parte sans eux. Or, sur le coup de 11h, il les a vus arriver. Non seulement Fogg et Passepartout, mais aussi une nouvelle venue, une jeune femme indienne. « Qu'est-ce que cela signifie ? » a-t-il murmuré pour lui-même, en réfléchissant à un nouveau mauvais tour qu'il pouvait leur jouer. Le paquebot qu'ont emprunté M. Fogg et les siens s'appelait le Ragoon. Il desservait les ports d'Asie. On y croisait toutes sortes de gens. Vous, sur le Ragoon ! Cette voix que l'on a entendue retentir dans les coursives du paquebot quelques jours plus tard était celle de Passepartout, sidéré de tomber nez à nez, une fois de plus, avec cet étrange fonctionnaire de Suez, le dénommé Fix. Le domestique n'en revenait pas. « Oh, je vous laisse à Bombay et je vous retrouve sur les routes de Hong Kong. Mais faites-vous donc aussi le tour du monde ?»« Pas du tout, je dois juste aller régler un litige en Chine du Sud. Quoi de neuf de votre côté ?» Et Passepartout de se lancer dans le récit de leurs aventures. Jamais le jeune Français n'avait pu imaginer que son maître était filé depuis Suez tout autour du globe terrestre. À la limite, pensait-il, Fix était-il un agent envoyé par le Reform Club de Londres pour vérifier que le voyage de M. Fogg se déroulait suivant le parcours prévu. Le 1er novembre, Le ragoût n'a fait escale à Singapour. De là, il fallait compter encore 6 jours de voyage avant d'accoster à Hong Kong. Mais la mer était agitée et le capitaine ralentissait son navire. Phileas Fogg restait patient. À ses côtés, la présence d'Aouda l'émouvait, même s'il donnait l'impression d'accomplir son tour du monde de façon mathématique. Accepteriez-vous de nous suivre jusqu'en Angleterre ? Lui avait-il demandé. La jeune femme avait réservé sa réponse, mais c'est Passepartout qui ne vivait plus. On le voyait grimper dans la mâture et donner un coup de main aux matelots, descendre dans les salles des machines, contrôler les turbines. S'il avait pu calmer le vent, aplatir les vagues ou passer derrière le paquebot pour le pousser, il l'aurait fait. Ce serait quoi son métier ?
Mais ça, il fait être...
Matelot ?
Oui.
Mais enfin, insistait-il, on ne peut pas monter, on ne peut pas monter la pression. Oui. La mer a fini par s'apaiser. Hélas, Hong Kong n'est apparu à la vigie que le 6 novembre au matin, alors que le navire aurait dû y accoster le 5. Suffit. Écoute l'histoire, Augustine. Sitôt à terre, Phileas Fogg s'est rendu au bureau des autorités portuaires. Quand part le prochain bateau pour le Japon ? Demain, à la marée du matin, lui a répondu l'un des employés. Ce sera le Carnatic qui fera aussi escale à Shanghai. 35 jours après leur départ de Londres, Phileas Fogg et son domestique respectaient encore leur programme à 24 heures près. Ce qui ne faisait pas les affaires de Fix. Le détective a donc invité le domestique français à se rafraîchir dans une taverne. Mais un établissement d'un genre particulier, là où l'on trouvait aussi des consommateurs endormis, pipe à la bouche, yeux mi-clos, baignant dans des nuages de fumée, une fumerie d'opium. Et voilà.